chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Karagir et aujourd'hui, nous allons fêter l'épisode 50 de cette chaîne plein de gratitude. Ce sera notre façon de vous dire merci du fond du cœur de nous accompagner durant toute cette presque année, puisque ce sera l'épisode 52 qui fêtera la 1 an de cette chaîne de podcast. Alors, que nous dit la science sur la gratitude? Que nous fait-elle découvrir? Je vous spoil l'épisode, l'un des plus grands potentiels qui soit à notre disposition, un authentique quick win. Aujourd'hui, chers amis, c'est l'épisode de la gratitude. Oui, 50 épisodes les uns après les autres, sans faillir, une fois par semaine. On a presque fêté une année, mais 50 étant le chiffre rond, nous allons le fêter aujourd'hui, une première fois, et non un an. Dans 2 semaines. Alors, comme celui-ci est l'épisode de la gratitude, nous avons reçu pendant 1 an tellement de messages. Et certaines nous ont beaucoup touchés. Et donc, je voulais envoyer un merci du fond du cœur à tous ceux d'entre vous qui nous avaient écrit. C'est un exercice qui a une puissance beaucoup plus grande que vous ne pouviez imaginer, parce que Julien a pris l'habitude de faire une capture d'écran chaque fois que vous écrivez un petit message pour nous encourager à continuer avec notre podcast. Chaque fois que vous nous partagez le temps que vous passez avec nous, comment vous l'aimez, les idées que vous nous partagez, bref, qu'il y a un petit cœur entre les lignes ou un joli emoji, Julie fait une capture d'écran, elle me l'envoie sur le WhatsApp. Tous les jours, j'en ai 2 ou 3. Et c'est devenu mon petit rituel de bien-être. Dès que je vois une petite capture d'écran, je dis « Ah, voici un auditeur qui nous envoie quelque chose. » Et je cours sur mon podcast pour le lire. C'est mon petit moment de sourire qui me dit « Iker, vous faites bien de faire ce que vous êtes. » Vous faites. Et pour Juliette, c'est devenu aussi un petit rituel bien-être, car ça lui fait plaisir en première ligne. C'est elle qui lit vos emails la toute première. Et ensuite, elle sait le plaisir qu'elle va m'offrir. Donc, elle est là, une double dose de dopamine grâce à vos messages. Donc, du coup, avant de continuer, je veux dire merci à Marie Tissier, à Cathy Vane, à Gaëtan Bock, à Diane Drouin, à William Eliancin, à Dominique Farran, à Joël Kemlika, à Valérie Fontaine, à Ribobert Kofi Annan, à Aïcha Bemoul, aussi à Marianne Guyot, qui sait que j'ai d'autres, Cathy Vane, bien sûr, je ne pouvais pas l'oublier, Ghislaine Le Saut, Michel Le Dantec, Valérie Fontaine, je crois que je l'ai déjà cité, mais ça ne fait rien, Francine Lagacé qui nous écrit souvent, Stéphanie Grain d'Orge, mais aussi Serge Marcadier. D'ailleurs, j'espère, Serge, que votre vision board avance comme vous le souhaitez. Ghislaine Le Saut, je crois que je l'ai déjà cité. Dominique Farran, je l'ai déjà cité. Ça ne fait rien. 2 fois merci. Tabitha, Zolo, je n'ai pas mes lunettes. Sophie Soulet, je vous ai déjà cité. Martine Locatelli. Ah là là, tellement de noms qui reviennent et qui nous font sourire. Suzanne Muller et Jeannet, et bien sûr aussi le père Louis-David et tant d'autres personnes qui nous accompagnent dans cette aventure et qui nous font continuer le cœur ouvert, l'enthousiasme plein, le sourire. Et nous allons maintenant vous prouver scientifiquement que la gratitude et la meilleure façon d'ouvrir notre potentiel et de nous apporter non seulement ça, mais la possibilité de vivre plus longtemps, en meilleure santé, avec plus de succès dans la vie et des relations plus épanouissantes. Rien que ça. Tout ceci étant dit, sachez que dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est la gratitude, ses effets sur notre cerveau et notre santé, comment la science a débunké les détracteurs de la gratitude. Vous aurez ensuite 7 quick wins pour booster votre potentiel grâce à la gratitude. Et après, on vous révélera le secret qui est la meilleure façon de rendre la gratitude virale et contribuer positivement au changement. Rien que ça, en un seul épisode. Mais avant de continuer, contextualisons cette chaîne de podcast, car chers amis, le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela, nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servis avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager avec vous un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète et pas juste de philosopher ou de nourrir le mental. Car le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur au cœur de l'humain et de son potentiel appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Pour aller au cœur de l'humain et de son potentiel et pour remettre l'humain au centre de l'entreprise et l'entreprise au service de la vie. Car Conscious Media, ce sont des clés pour une vie plus consciente dans toutes les dimensions de notre vie. Et si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez découvrir Conscious Media, sachez que ceci est une annonce en exclusivité avant le lancement officiel en avril 2022. Nous travaillons d'arrache-pied pour ce lancement. Ce sera pour bientôt, mais dès aujourd'hui et d'ores et déjà, on vous en parle parce que nous sommes aux anges avec ce projet de contribution. Ainsi, si vous voulez nous écrire, nous partager votre opinion, nous envoyer un petit peu de gratitude pour nous faire sourire à chacune de ces belles journées que nous dédions à ce nouveau projet, n'hésitez pas à nous écrire. Attention, nouvel email à hello@conscious-media.com. Ce sera un plaisir de vous lire. Vous savez que votre email finira sur mon petit WhatsApp et vous me donnerez le sourire de la journée. Alors maintenant, après cet exercice de gratitude qui était une demande exclusive de Julie, il faut que je le souligne. Julie m'a dit « Tu ne fais pas un épisode sur la gratitude sans dire merci à nos auditeurs, sans dire merci à notre communauté et surtout sans en nommer quelques-uns. Les autres que tu ne nommeras pas se sentiront reconnus, mais quand même, il y en a tellement qui nous écrivent. » Elle incitait. Et hier soir, à 1h du matin, elle m'a écrit sur WhatsApp pour me dire « Tu n'oublies pas de dire merci à la communauté. » Donc n'hésitez pas d'envoyer un petit clin d'œil à Julie, car c'est ce que nous faisons aujourd'hui, parler de gratitude. Donc commençons d'abord par définir ce qu'est la gratitude. Et plutôt que d'aller voir le Larousse ou Wikipédia comme ferait n'importe qui, je suis allé voir Robert Emmons, qui est un scientifique de l'Université de Californie Davis et le plus grand scientifique au monde, le grand spécialiste mondial de la gratitude, qui dit que la gratitude est simplement une affirmation de bonté, qui vous permet d'affirmer qu'il y a du bon dans le monde. Elle vous permet de reconnaître que les sources de cette bonté sont extérieures à vous et que sont dues à d'autres personnes, voire à des êtres supérieurs pour ceux qui ont une approche spirituelle. Ça débouche ensuite dans une émotion qui renforce le lien social car elle nécessite la reconnaissance du rôle positif de l'autre dans nos vies. Ceci, c'est pour Rob Emmons. Mais nous avons un sociologue qui s'appelle George Simmel qui nous dit en plus, et je le cite parce que j'ai bien aimé cette approche de la gratitude, que c'est une mémoire morale de l'humanité. Car la gratitude nous encourage à recevoir des cadeaux et à les rendre. Voici pour la définition de ce qui va nous permettre de voyager pendant toute la durée de cet épisode. Mais maintenant, que se passe-t-il dans notre petite tête quand nous faisons preuve de gratitude ? Alors, il y a pléthore. Alors, quand je dis pléthore, c'est une liste longue comme le bras, écrite en police 5 d'études scientifiques sur la gratitude. Donc, nous allons nous référer à une étude de l'Université de Californie du Sud qui nous dit que la gratitude active certaines parties de notre cerveau. Alors, je ne vais pas rentrer, certaines fois, dans d'autres épisodes, je le fais. Là, je ne vais pas rentrer un peu dans tous les détails sur les noms de ce qui se passe par-ci, par-là. Je vais aller droit au but parce que j'ai trop de choses à raconter. Donc, prenez juste pour argent comptant, c'est une étude de l'Université de Californie du Sud qui le raconte. D'ailleurs, toutes les sources scientifiques dont je base mes articles seront publiées sur Conscious Media quand en avril, les articles paraîtront en accompagnant ces épisodes. Bref, la gratitude active des parties du cerveau qui sont en relation avec les émotions et le lien interpersonnel. Donc, il y a une part émotionnelle importante et une part de lien interpersonnel qui se met. Elles sont aussi concernées par le jugement moral, la capacité à comprendre l'état mental des autres et à récompenser les interactions sociales. Du coup, les scientifiques concluent que l'émotion, il s'agit d'une émotion très complexe sur comment les autres veulent nous bénéficier. Il s'agit beaucoup plus que juste la perception d'une récompense à notre ego. Il s'agit d'une approche très complexe au niveau du cerveau qui inclut en plus des questions de moralité, de connexion à l'autre et de comprendre la perspective de l'autre. Cette étude, tout simplement, ce qu'elle nous montre, c'est la quantité de choses imbriquées qui s'allument dans notre cerveau dès le moment où il y a un exercice de gratitude. Et les connexions neuronales et des différentes parties du cerveau sont tellement importantes et complexes que, du coup, la science s'est donnée à cœur joie d'aller les étudier et découvrir des effets sur notre vie absolument stupéfiants. Si vous voulez vous en convaincre, restez avec moi parce que maintenant est arrivé le moment de découvrir les effets prouvés scientifiquement de la gratitude sur nos vies. Alors, d'emblée, ça n'étonnera personne, la gratitude vous permet d'être plus heureux et moins déprimé. Il s'agit là d'une étude qui a été publiée dans Psychotherapy Research volume 28 en 2018 et qui a été faite auprès de 300 adultes. Il s'agissait des étudiants avec une spécificité, c'est qu'ils étaient sous suivi psychologique par excès d'anxiété, voire dépression. Donc, des étudiants qui subissaient complètement leur parcours académique et qui donc avaient un suivi psychologique. Ces étudiants, on les a classés en trois groupes. Au premier groupe, on lui a demandé d'écrire une lettre de gratitude une fois par semaine pendant 3 semaines. Au deuxième groupe, on lui a demandé d'écrire des pensées sur leurs pensées profondes et négatives, ce qu'ils voulaient. Ils avaient juste à faire un journaling sur ce qui leur traversait l'esprit. Et au troisième groupe, qui était le groupe témoin, on leur a demandé de ne rien faire. Et tous les trois groupes ont maintenu leur suivi psychologique. Ce sera sans vous surprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je cafouille, je bafouille. C'est peut-être que je fais l'épisode un tantinet plus tard que les autres dimanches. Ainsi soit-il, je bafouille et je m'en excuse. Mais vous ne serez pas surpris de découvrir que dans cette étude, eh bien, c'est la gratitude qui, de loin, a obtenu les meilleurs résultats. Ils ont ainsi prouvé, suite à cette étude, que la gratitude libère les personnes de leurs émotions toxique. Aussi soit-il dit en passant que parmi toutes les personnes qui avaient exprimé la gratitude, celle qui a enregistré les meilleurs niveaux de santé mentale et physique étaient ceux qui utilisaient le moins de mots d'émotions négatives. Ce n'était pas ceux qui avaient le plus de mots positifs, mais ceux qui utilisaient le moins de mots négatifs. Et grâce à ça, ils ont pu conclure que la gratitude nous éloigne des émotions et des ruminations négatives. Mais ils ont pu prouver aussi, et ça c'était assez surprenant, du moins pour moi, qu'elle aide même si on ne la partage pas. C'est-à-dire, si vous faites un exercice de gratitude et vous le gardez pour vous-même, s'il est bien fait, et on en parlera de comment peut-on bien faire un exercice de gratitude à la fin de cet épisode, s'il est bien fait, il y aura quand même des effets positifs. il y a eu une autre étude, donc ceci, je fais une étude dans l'étude, qui a fait faire à des personnes l'exercice suivant. Écrire une lettre à la personne qui vous a le plus influencé dans votre vie. Donc, ils écrivent cette lettre, tu vois, ici à tel, ils sont tout seuls dans une salle, tac, 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 tout ceci est filmé. Et après, une fois qu'ils ont fini, ils posent la lettre, comment vous vous sentez? Et ils font une première évaluation. Une deuxième, pardon. La première évaluation, c'était avant de faire l'exercice. La personne ne sait pas à quoi s'attendre. Deuxième évaluation, comment vous vous sentez après avoir fait l'exercice? Troisième partie de l'exercice, vous allez prendre le téléphone et vous allez appeler cette personne. Alors, je vous laisse imaginer la tête des bonhommes. Vous voyez ça dans les vidéos et c'est wow, il y en a certains, ils se disent, bon, ok. Ils prennent le téléphone et c'est une vidéo extrêmement touchante. De cette étude, il en ressortait que 2 à 4%, il y avait 2 à 4% d'augmentation du bien-être et du bonheur perçu dès la fin de l'exercice, même si celui-ci n'était pas partagé, car tout le monde n'avait pas désiré le faire ou n'avait pas pu le faire. Par contre, il y avait une augmentation entre 4 et 19% du bonheur perçu à la fin de l'exercice quand il était partagé. Et le plus grand delta enregistré était chez la personne qui était le moins heureuse en commençant le test. Donc, dans l'étude initiale dont je vous parlais, publiée dans Psychotherapy Research de 2018, si on vous dit que même si vous ne partagez pas, la gratitude a un effet positif, cette autre étude nous dit que si vous la partagez, il y a encore un effet découplé. Par contre, la première étude dont il est question, donc je ferme la première parenthèse et je passe en étude, nous dit quand même que pour que les effets de la gratitude engrangent tous les bénéfices que je vais vous décrire dans cet épisode, il doit être une pratique récurrente dans le temps. Elle n'a pas un effet immédiat. Par contre, si vous pratiquez régulièrement, comme les étudiants de cette étude qui l'ont fait une fois par semaine pendant 3 semaines, les effets perdurent après ces 3 semaines, donc quand ils ont mesuré 4 semaines après l'exercice, les effets perduraient encore, et ils étaient encore présents au bout de 12 semaines. Ceci étant dit, il est souligné dans l'étude qu'il est nécessaire d'avoir une certaine régularité dans l'exercice. Et je trouve que le faire une fois par semaine pendant 3 semaines, ce n'est pas une énorme contrainte. On peut pousser un peu plus loin l'habitude pour le rendre encore plus puissant. Ceci étant dit, conclusion de l'étude, la gratitude, quand pratiquée régulièrement, a des effets durables dans le cerveau qui vont au-delà de 3 mois après. Donc, première étude, on sait qu'avec la pratique de la gratitude, vous serez plus heureux, moins déprimé pendant longtemps. Mais ce n'est pas tout, car elle va venir influencer de façon superlative votre santé et votre longévité. Alors, nous allons parler en particulier d'une étude faite par plusieurs études faites par la docteure Wendy Mendez de l'université, pardon, de Californie, qui a mesuré en long, en large et en travers les effets de la gratitude sur notre santé. Alors, pour cela, ce qu'elle a fait, c'est des injections d'oxytocine, qui est une hormone qui amène une résurgence de plus d'émotions pro-sociales et donne plus de confiance. Et donc, grâce à ça, on a pu mesurer, bien évidemment en faisant des exercices de gratitude, mais de façon un peu plus claire, les effets de la gratitude sur les personnes, puisqu'il y a un lien direct entre la gratitude et l'émission d'oxytocine. Les résultats. C'est une liste longue comme le bras, comme je disais en introduction de cet épisode. La pratique de la gratitude vous amène plus de bien-être, on l'a déjà dit tout à l'heure, moins d'anxiété, plus d'optimisme, moins de névrose, moins de dépression. Vous êtes plus connecté socialement et moins sensible au rejet. Vous êtes moins enclin ou moins incline à croire que la hiérarchie soit un moyen d'organiser la société et vous être plus intéressé par des approches de collaboration, de partage et de connexion horizontale. Vous êtes aussi moins en colère. Vous avez une meilleure qualité de sommeil. Vous dormez en moyenne une demi-heure de sommeil réparateur par nuit en plus que la moyenne. Vous avez moins de pression sanguine au repos. au repos, pardon, moins de sensibilité au stress, plus de bon cholestérol, moins de mauvais cholestérol, moins de créatinine, qui est un indicateur du fonctionnement des reins, et globalement, une meilleure santé cardiaque. Et il nous rappelle, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pour ça que je dis que ceux qui se rappellent d'avoir eu des parents aimants ont de meilleurs indicateurs de santé cardiaque influençant la longévité. Et ceci grâce à la gratitude qu'ils ont envers leurs parents. Accrochez-vous, rien que ça. Mais il y en a encore plus. Parce qu'une autre étude publiée dans le journal de psychologie générale expérimentale nous dit suite à l'exercice suivant. Ils ont pris un groupe de personnes auxquelles ils ont demandé d'exprimer plein de gratitude, de plein de façons différentes. Et ils ont fait ce test de façon répétée. Et une fois qu'ils savaient qu'ils baignaient bien dans une belle soupe de gratitude, d'ailleurs, je n'ai pas dit, ces personnes-là étaient des étudiants. On a pris ces étudiants-là et on les a mis face à une situation de très grands enjeux en très peu de temps. Genre un examen qui va définir si vous aurez le diplôme en fin d'année ou pas. Et c'est du jour au lendemain. Et ils mettent en face une personne extrêmement sévère qui, littéralement, n'a rien à cirer de ce qu'ils sont en train de raconter. Le groupe qui a participé aux exercices de gratitude, car je ne l'ai pas dit, mais vous imaginez bien qu'il y avait des groupes témoins qui avaient fait d'autres types d'exercices. Ce groupe-là, celui qui avait baigné dans la soupe de gratitude, avait des marqueurs de résistance au stress nettement, pas un petit peu, mais nettement supérieurs aux autres groupes. Ils en ont conclu alors que la gratitude était un bouclier contre les menaces, mais aussi permettait une augmentation de la réponse aux défis individuels, c'est-à-dire une meilleure réponse face aux défis individuels. Elle favorisait en plus un développement de la confiance en soi, notamment sur les moments où l'on était face à une évaluation par rapport à d'autres personnes. Rien que ça, encore une fois. Je vous dis, j'ai littéralement halluciné en faisant toutes ces découvertes, en étudiant pour faire cet épisode de podcast. Mais si vous vous imaginez que vous êtes en train de faire ça dans le monde du travail, au boulot, sachez que les personnes qui expriment de la gratitude en milieu professionnel sont considérées comme plus compétentes et plus chaleureuses. Ce qui amène d'avoir plus d'opportunités dans leur carrière, une meilleure évolution, ce qui les amène à avoir en moyenne des salaires 7% supérieurs à leur corollaire sur le même poste à compétences égales. Entre autres, je cite ici une étude qui a été publiée dans Psychological Science. Du coup, pensiez-vous que c'était tout ? Le stress, la santé, le travail, le bonheur, le bien-être, blablabla. Vous croyez que c'était tout ? Eh bien, pas du tout. Il en reste encore un paquet de choses. Et là, par contre, plutôt que de vous citer l'étude d'un tel, parce que sinon je ne finirai jamais, je vais tout simplement vous décrire une quantité d'avantages des statistiques qui ont choqué mon œil, attiré mon attention. Déjà, vous avez vu toutes les causes qui améliorent la santé ? Eh bien, en moyenne, vous serez 10% à meilleure santé que quiconque d'autre qui est de votre âge dans le même espace de vie. Mais, et celle-ci, elle est intéressante, vous serez en moyenne 25%, ce qui n'est pas rien, plus heureux, ou vous aurez la perception d'être 25% plus heureux que les personnes qui vous entourent. Et ce qui fera que vous aurez une vision beaucoup plus optimiste de la vie. Maintenant, d'autres statistiques intéressantes. La gratitude augmente de 5% avec l'âge. Comme si, avec l'expérience, on se retournait, on regardait derrière et une certaine nostalgie nous disait « la vie est belle ». Les personnes qui exercent la gratitude dédient en moyenne 20% de plus de leur temps et de leur argent à l'entraide mutuelle et aux autres. Ces personnes-là ont des liens beaucoup plus forts avec leur communauté de vie. Des liens humains beaucoup plus forts et véritables. Ce qui les amène à avoir des relations beaucoup plus satisfaisantes et à se sentir beaucoup plus aimés en retour. Ce qui n'est pas surprenant du coup, c'est que parmi les jeunes, quand ils pratiquent la gratitude, ils sont 13% confrontés au conflit en moins, donc 13% de conflits en moins, et ont 20% de chances de plus d'avoir de très bonnes notes et 10 fois moins de chances de commencer à fumer. Et quand vous rassemblez tout ça, la statistique qui met tout le monde d'accord, c'est que les personnes qui, de façon générale, vivent dans des émotions positives, dont la gratitude, rajoute ni plus ni moins que 7 années de vie à leur compte. Alors, que me dites-vous de tout ça? Écrivez-moi dans hello@conxus-media.com et si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à nous dire merci. Ça nous donnera un rush de dopamine, on kiffera l'instant, on sera plein de gratitude et vous, ça vous fera du bien aussi. Mais bien évidemment, il y a des détracteurs de la gratitude. Et donc qui disent que ce sont des niaiseries à l'eau de rose pour bisounours en mal d'amour. Et ils iront vous casser, vous dire ça c'est des stupidités. Bon, ça a tellement énervé Robert Emmons, dont je vous ai parlé en introduction, le grand pape, le grand ponte, le gourou de la gratitude et de l'étude scientifique autour de la gratitude, qu'il a décidé de débunker les mythes autour de la gratitude. Le premier, qui dit « la gratitude, c'est de la complaisance, c'est une léthargie, une fainéantise, une résignation passive, c'est un truc qui fait tomber facilement, qui laisse tomber rapidement et facilement l'effort. Bref, c'est un truc de faible. » Robert Emmons s'accroche et prouve scientifiquement que, au contraire, la gratitude est une notion de sens qui amène un désir d'en faire plus. Et dans une étude qu'il a menée, il a demandé aux participants de faire un journaling une fois par semaine où ils écrivaient 5 kiffs de la semaine. Toutes les personnes qui étaient dans le groupe participant avaient beaucoup plus d'engagement envers les objectifs fixés que le groupe témoin qui ne faisait rien autour de la gratitude. Elle progressait 20% plus vite et mieux vers les objectifs avec la sensation subjective d'en vouloir encore plus. Elles avaient plus d'énergie, elles étaient plus vivantes face au projet, beaucoup plus alertes et plus éveillées. Mais, étonnamment, elles n'avaient pas une perception de satisfaction supérieure aux autres personnes. Tout simplement, elles avaient plus de patates et de meilleurs résultats en faisant ce qu'elles faisaient. Donc, ici, il marque une différence très claire. Ne pas se satisfaire que de ça ne veut pas dire qu'on arrête les efforts, puisque les preuves scientifiques à l'appui, la gratitude ne faisait pas arrêter les efforts, mais au contraire, redoubler ces derniers. Après, il a mené une autre étude sur la gratitude et il a prouvé qu'il y avait une augmentation du lien social, de la générosité, de la compassion et de la charité. Ce qui a mené un engagement d'action tourné vers les autres. Et il a prouvé lui aussi que les enfants qui à 10 ans faisaient le plus preuve de gratitude, à 14 ans, étaient beaucoup plus engagés socialement et dans leur communauté. 3 études différentes qui mènent exactement à débunker le fait que la gratitude est quelque chose qui est une sorte de léthargie pour laisser tomber facilement l'effort. Allez, boum, il nous a mis ça à la poubelle. Mais ce n'est pas tout, parce que derrière, il s'est attaqué à un autre mythe de la gratitude, qui dit que la gratitude est une forme naïve de pensée positive. Et ça l'énervait aussi. Du coup, il a mené une étude qui a prouvé que la gratitude n'est pas quelque chose qui ignore la négativité, la douleur ou la souffrance, c'est-à-dire une sorte de voile qui nous fait tourner le dos à une réalité pragmatique. Non. La gratitude augmente les sentiments positifs plutôt que réduire les sentiments négatifs. Donc, Emmons nous a prouvé que bien, toute la négativité qu'il y a dans le monde, on reste pragmatique et on sait qu'elle existe. Mais grâce à la gratitude, il y a un surplus de pensées et sentiments positifs qui viennent compenser la donne et nous permettent de mieux passer les caps difficiles. Et il nous prouve en plus que la gratitude engage plus d'engagement pour plus de responsabilité, car on reconnaît l'autre et sa dépendance vis-à-vis de l'autre est née alors grâce à la gratitude ou suite à la gratitude un sentiment de dette et d'obligation. C'est-à-dire que en faisant preuve de gratitude, il n'y a pas une naïveté qui s'instaure dans la pensée positive. Non, il y a plus de positif pour compenser le négatif, mais en sus, un engagement vers d'autres actions, comme le prouvaient les études antérieures. Bam ! Deuxième mythe débunké. Troisième mythe qu'il a cherché à débunker, c'est que la gratitude pousse à s'effacer. Car on a tendance à donner du crédit aux autres plutôt qu'à soi, on se met en exergue et bon, toute la lumière soit celle des personnes que j'ai devant moi. Eh bien, une autre étude publiée dans Positive Psychology in Practice, Monsieur Edmonds et compagnons et collègues prouvent qu'on reconnaît la valeur des autres, mais la sienne propre aussi. À travers la gratitude, il y a un double va-et-vient, car le geste que quelqu'un fait pour nous, l'aide que quelqu'un nous apporte et qui nous fait sentir de la gratitude, est une façon qu'a l'autre de nous dire que nous avons de la valeur. Le retour que nous donnons à cette personne sous forme de gratitude est une façon de dire en retour à cette personne « Toi aussi, tu as de la valeur pour moi ». Donc, en fin de compte, on débunke cette troisième mythe, qui dit que la gratitude pousse à s'effacer. Mais il était vénère, Romer Emmons, il en avait marre de tous ceux qui viennent de détruire et casser la gratitude, et il a débunké un autre mythe. La gratitude n'est pas possible ni appropriée en cas d'adversité et de souffrance. Et là, il nous cite, parce que cette étude, ce n'est pas lui qui l'a faite, ce sont des collègues à lui, mais il a fait un focus sur une autre étude publiée dans le Journal of Positive Psychology et qui a demandé à ses participants de se souvenir d'expériences difficiles. Là, il y avait trois types d'exercices d'écriture, dont un qui demandait à extraire les points positifs qui ressortaient de ces expériences. Tous ceux qui avaient participé à cette partie de l'exercice, c'est-à-dire un exercice de gratitude vis-à-vis des moments difficiles, faisaient preuve de beaucoup plus de résilience, de moins d'amertume et d'émotions négatives. Ils ont mené une deuxième étude, cette fois-ci menée par, encore une fois, Robert Emmons, et dans cette étude, ils sont allés plus loin encore. Ils sont allés travailler avec des malades, avec des problèmes moteurs graves et très graves, c'est-à-dire des personnes qui subissaient des difficultés motrices avec beaucoup de douleurs au quotidien. Et ils ont fait la même étude avec eux. Et résultat des courses, toutes les personnes qui participaient à l'échantillon de la gratitude étaient beaucoup plus positives, dormaient mieux, déclaraient un meilleur sentiment de bien-être, avaient plus de sens d'émotions positives et avaient beaucoup plus de connexion avec les autres. Donc, même dans les cas extrêmes, la gratitude fonctionne. Quatrième mythe débunké par Monsieur Emmons. Mais ce n'était pas suffisant. Et voici qu'il s'est attaqué au cinquième et dernier mythe. La gratitude, c'est un truc pour grenouilles de bénitier. Il faut être religieux pour expérimenter la gratitude. Et là, il nous cite une autre de ses études qui a été publiée dans le Journal of Psychology and Christianity et qui prouve que ceux qui pratiquent une religion sont plus enclins à expérimenter la gratitude. Mais pas que pour Dieu, aussi pour les autres. Mais l'étude prouve aussi qu'elle est loin de là exclusive aux personnes religieuses. La gratitude est totalement et absolument laïque. Et après ça, Robert Emmons s'est senti soulagé, il a débunké tous ses rétracteurs et il est allé dormir tranquillement, assouvi et reposé. Donc maintenant que vous avez appris tout ça sur la gratitude, forcément vous allez vous dire, mais comment fait-on pour bien exprimer la gratitude? Comment fait-on pour engranger tous ces effets bénéfiques? Eh bien, commençons d'abord par la notion d'exprimer la gratitude. Si vous êtes papa, si vous êtes maman, sachez que les enfants sont en capacité d'apprécier la gratitude chez les autres à partir de leurs 4 ans. Donc, avec tout ce que vous apprenez aujourd'hui, n'hésitez pas à intégrer cette habitude chez eux. Maintenant, si vous êtes adulte, sachez qu'il y a une étude publiée dans Affective Science en 2022 qui nous dit qu'il n'y a pas de moyen d'expression meilleur que notre pour exprimer la gratitude. Ils en ont testé plein et notamment les lettres de gratitude, envoyer des SMS pour dire merci et les envoyer, exprimer publiquement de la gratitude dans les réseaux sociaux, verbalement. Tous ces exercices généraient des émotions positives, un sentiment d'élévation et de connexion. Mais, paradoxalement, je ne m'attendais pas à ce résultat, les SMS beaucoup plus que les autres. Moi, je pensais que ça aurait été les lettres de gratitude, c'est un exercice que je connaissais avant d'avoir fait cette recherche, mais en fin de compte, les SMS sont beaucoup plus puissants que les autres. Et dans l'ensemble, ils ont conclu que le moyen importe peu. Ce qui importe, c'est de pouvoir exprimer la gratitude. Ce qui m'amène à la dernière partie de cet épisode, ou l'avant-dernière partie de cet épisode, probablement celle que vous attendez le plus, celle des quick wins, les victoires rapides, les choses simples que je peux mettre en place pour booster mon potentiel grâce à la gratitude. Rien que ça, et c'est pour maintenant. Alors, la première chose que vous devez faire, vous l'avez compris au début de ce podcast, c'est que la gratitude ne marche que si vous la pratiquez régulièrement. Les études dont je vous ai parlé, pour elles, la régularité, c'est pas un truc de l'au-delà. Hein. Vous n'allez pas vous mettre la rate au courbouillon. Dans les études, c'était pratiqué un journaling une fois par semaine. Ah, c'est pas non plus la mer à boire. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'importance des habitudes, sur comment intégrer les habitudes, j'ai fait une mini-série de 2 épisodes sur la question dans cette même chaîne de podcast. Si vous ne les avez pas écoutés, c'est que vous n'êtes pas abonné. Il y a 3 choses que vous pouvez faire pour exprimer votre gratitude si vous aimez ce que nous faisons. La première, vous abonnez à la chaîne de podcast. La deuxième, laissez-nous un commentaire et des étoiles, car plus nous allons avoir de commentaires positifs et de nombre d'étoiles, et plus nous serons boostés par les plateformes d'hébergement pour que d'autres personnes puissent découvrir cette chaîne. Et troisième chose que vous pouvez faire, la meilleure de toutes, car rien ne bat le bouche à oreille, parlez-en autour de vous. Invitez des personnes autour de vous qui pourraient être touchées par ces épisodes à nous découvrir, à s'abonner, à commenter, à partager. Et comme ça, nous faisons une chaîne positive et de plus en plus de gens pourront découvrir notre travail. Rien que ça. Maintenant que vous savez, parce que vous avez écouté votre épisode sur les habitudes, que vous savez comment faire pour intégrer des habitudes dans votre vie, il suffit de décider que l'une de ces habitudes qui boostera votre potentiel sera l'expression de la gratitude. Et vous pouvez commencer par un exercice devenu très populaire. Elle ne détient pas la maternité de cet exercice, mais elle en a fait un superbe, superbe travail de communication. C'est les 3 kiffs par jour de Florence Servan-Schreiber. De quoi s'agit-il? Il s'agit de partager un sentiment de gratitude pour ce que l'on a et ce que l'on a eu dans la journée. C'est créer une habitude de gratitude avant de se coucher. Donc vous faites ça en famille, vous faites ça avec votre conjoint, vous faites ça avec quiconque partage le quotidien avec vous. Vous vous asseyez à table et vous dites, vous partagez au restant du groupe quels sont les 3 kiffs de votre journée. Non seulement vous allez passer un super moment, non seulement vous allez générer plein de conversations autour des 3 kiffs, mais en plus vous allez avoir des repas extrêmement positifs qui vont tous vous uplifter, on dit en anglais, qui vont vous élever, vous donner une sensation de « ah !» et qui auront un effet collatéral extrêmement bénéfique car ça vous met dans une psychologie positive et ça vous prépare à aller au lit dans une psychologie positive qui va faciliter et aider énormément le subconscient à intégrer la journée dans le meilleur sens possible. Ça pour un premier quick win. Un autre quick win, c'est de faire un dîner des merci. C'est-à-dire que les 3 kiffs par jour, vous parlez juste de ce que vous avez aimé. Il y a une notion de gratitude parce que vous dites les choses que vous avez aimées. Vous pouvez faire un focus spécifique sur la gratitude, c'est-à-dire à qui et à quoi vous aimeriez dire merci. Échanger avec ceux qui vous entourent sur ce qui vous a rendu heureux et plein de gratitude. Il y a une autre variante de cet exercice que j'appelle la boîte des merci, que je n'ai pas pratiquée, mais je vais peut-être pratiquer avec mon fils, et qui est de mettre dans une boîte des histoires de gratitude de la journée. Et au fur et à mesure, vous mettez ces histoires dans la boîte de gratitude, boum, vous les mettez, et une fois par semaine, vous avez un rendez-vous gratitude ou le rendez-vous des bons kiffs. Et au hasard, vous sortez un petit bout de papier et vous lisez le kiff auquel il fait référence. Et ce kiff-là, vous devez le raconter. Si vous êtes le héros de cette histoire, vous devez le raconter aux autres. Ça vous permet de vous souvenir de toutes les belles choses que vous vivez au quotidien et ça vous donne une perspective dans la durée beaucoup plus solide sur la beauté de votre vie. Alors que beaucoup de ces choses-là finissent irrémédiablement par disparaître de notre souvenir car nous n'avons pas beaucoup de mémoire au nous qui venons de dépasser la barrière des 50 ans. Et je parle pour moi. Forcément, avant de continuer, une petite parenthèse, c'était de l'autodérision. Ce n'est pas parce que vous avez plus de 50 ans que vous n'avez pas de mémoire. Moi, oui. Maintenant, deuxième quick win. Peut-on, doit-on écrire une lettre ou doit-on faire un journal? Ici, je vais citer une étude qui a été publiée dans Affective Science en 2022 et qui a intégré 958 adultes à qui on a demandé d'écrire une lettre de gratitude, mais sans l'envoyer. D'écrire un essai sur un événement qui inspirait de la gratitude, mais qui n'était pas relié à une personne. Ensuite, d'écrire une liste de personnes ou de choses pour lesquelles les personnes sentaient de la gratitude. Et après, on a demandé à un autre groupe d'écrire juste un suivi des activités de la journée, voilà, quelconque. Voilà, c'est tout simplement, tu as fait quoi dans ta journée? Donc, ces 4 groupes, et un groupe témoin, bien évidemment, qui ne faisait rien, et on a ensuite étudié les résultats de tous ces groupes-là. On a questionné avant, pendant et une semaine après l'exercice chacun des participants. Le groupe qui a enregistré les plus grands bénéfices était celui qui écrivait une lettre à quelqu'un. Il y avait plus d'émotions positives, un meilleur sentiment d'élévation et de connexion aux autres. Plus l'activité était longue, plus elle était bénéfique. Donc ce sont les lettres et les essais qui avaient enregistré le maximum de résultats. Mais les effets n'étaient pas durables. Si la pratique n'était pas régulière, ça veut dire qu'elle devait être une habitude. Donc, si vous pratiquez un exercice de gratitude une fois, ça vous fera du bien sur le moment. Si vous voulez engranger tous les bénéfices, je l'ai déjà dit dans l'épisode, mais je le répète, vous devez en faire une gratitude. Mais en poussant un peu plus loin, il s'avère que pendant la crise Covid-19, pendant le premier confinement, il y a des Hollandais qui ont fait une étude sur la gratitude. Ils ont développé une application pour voir les effets de la gratitude dans situations aussi exceptionnelles. Et leur étude a été publiée dans le Journal of Happiness Studies. Ils ont fait cette étude auprès d'une centaine d'Européens suite au confinement Covid-19. Ils ont fait cette application avec des exercices écrits. Il fallait apprécier les bonnes choses de la vie, exprimer la gratitude à d'autres personnes, trouver des choses positives dans l'adversité et faire ça pendant 10 à 15 minutes par jour, 5 jours par semaine. Tous ceux qui avaient exprimé la gratitude dans leur travail étaient moins déprimés, moins stressés, moins anxieux, 6 semaines après les exercices encore que le groupe témoin qui n'avait rien fait. Elles avaient en plus moins de rumination, plus de positivité et plus de gratitude. Et c'était encore valable 12 semaines après l'exercice. Rien que ça, et à une époque absolument exceptionnelle, c'est pour ça que cette étude a pour moi une valeur particulière, c'est que c'est juste après le confinement. Rappelez-vous, nous étions à la suite du confinement, avec tout ce qu'on a vu traverser, avec tous les doutes qui nous entouraient au niveau systémique, au niveau du travail et tout ça, eh bien, dans ce contexte particulièrement pourri, eh bien, bam, la gratitude a encore fait des siennes. Mais nous avons d'autres quick wins à partager, car nous en sommes à 2, il nous en reste 5. Une autre étude publiée dans le Journal of Positive Psychology nous dit qu'il n'y a rien de mieux que méditer sur la mort et la fin de vie ou de méditer sur la perte de quelque chose que nous avons encore. Ça peut paraître un peu glauque, mais en réalité, c'est une pratique que les bouddhistes font beaucoup. Ils se confrontent en vie à la perspective de leur propre mort pour pouvoir dépasser certaines barrières et pouvoir justement découvrir une autre entièreté de l'être. Bon, ça, c'est l'approche bouddhiste. Mais dans cette même pratique appliquée à la vie de tous les jours pour les personnes lambda comme vous et moi qui ne sont pas bouddhistes, eh bien, méditer sur la mort ou sur la perte de quelque chose, voire de quelqu'un, alors que rien de tout ça n'est perdu, ni votre vie, ni ce quelque chose, ni ce quelqu'un, vous permet de prendre conscience de toutes les belles choses qui vous ont lié à ce quelque chose, à votre vie ou à cette personne, voire même toutes les belles choses qu'il vous reste encore à faire pour booster et magnifier votre vie, cette chose-là, ou le lien à cette personne en particulier. Ainsi, cet exercice, glauque au premier abord, n'est certi que de pléthore de prises de conscience extrêmement positives qui ont pour effet bénéfique de booster votre gratitude. Mais je suis sûr que vous n'êtes pas encore satisfait, vous en voulez encore des quick wins. J'en ai d'autres. Ce quick win sera particulièrement aimé par les adeptes de la pleine conscience, car le seul moyen de pouvoir tirer tous les bénéfices positifs de votre pratique de la gratitude, c'est d'être pleinement présent à l'exercice. Ceci va se rattacher forcément à l'exercice antérieur qui vous rend pleinement conscient du fait que vous êtes en vie, que vous avez le lien avec quelqu'un, que vous avez ce quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Mais ceci vous met en lien avec tous les exercices que je vous ai décrits, que vous fassiez des SMS, que vous écriviez des lettres, que vous appeliez quelqu'un que vous aimez pour lui exprimer sa gratitude, votre gratitude. Bien, peu importe, tous les exercices que je dis qui sont tous somme toute très très simple à faire, il ne fonctionne que si vous êtes vraiment dans l'exercice. Ça ne sert à rien d'écrire une lettre de gratitude alors que vous êtes en train de regarder Netflix ou d'écouter ce podcast. Il est nécessaire que vous soyez pleinement en train de faire l'exercice et pleinement dans l'exercice, comme si vous le viviez. Car le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qu'il visualise et ce qu'il vit réellement. Donc, pendant l'exercice de gratitude, visualisez dans l'instant présent. Soyez ici à ce que vous faites. Projetez-vous dans ce que vous êtes en train d'écrire pour le vivre pleinement une fois de plus, ici et maintenant. Et là, quick win, vous boosterez puissance 10 les effets de votre exercice de gratitude. Et si vous voulez pousser encore plus loin, quand vous êtes en train d'exprimer la gratitude, ne vous contentez pas seulement de dire merci, mais dites aussi pourquoi. Et là, je vais tout simplement paraphraser Christopher Howes, qui est directeur du laboratoire de l'empathie et des émotions de l'Université de San Diego, Californie, qui dit qu'il est nécessaire d'exprimer la gratitude en pleine conscience et avec force de détail. Je le cite. Il faut laisser la gratitude s'exprimer quand on la sent. Ça ne veut pas dire de se promener en lâchant des expressions de gratitude à tout va. Plutôt, quand vous la ressentez véritablement, vous devriez l'exprimer. Ici et maintenant, en pleine conscience, avec luxe de détails. Et si vous rajoutez à ça des hugs, c'est-à-dire des câlins, alors là, mes amis, vous allez faire des feux d'artifice. Et si vous ne me croyez pas, il y a un épisode que j'ai dédié au câlin. J'ai appelé le titre de l'épisode, c'est les bienfaits d'un bon câlin prouvés par la science. Allez voir cet épisode, car là aussi j'ai fait une recherche de ouf et j'ai adoré tout ce que j'ai pu découvrir. C'est un autre quick win extraordinaire. Un épisode entier dédié. Donc, pour dire merci, si derrière vous rajoutez un hug, alors là, accrochez-vous. Vous n'avez pas écouté cet épisode? Encore une fois, c'est que vous n'étiez pas abonné. Vous ne l'avez pas fait depuis tout à l'heure. Eh bien, si vous voulez nous exprimer votre gratitude, abonnez-vous. Laissez un petit commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Comme je disais tout à l'heure, plus nous avons d'étoiles, plus nous avons de commentaires positifs, plus notre chaîne sera boostée par les hébergeurs. Et forcément, Si vous partagez avec les gens que vous aimez, c'est encore un geste de gratitude et une chaîne de gratitude qui se poursuivra. Et de plus en plus de gens pourront découvrir ce projet magnifique que nous avons pour contribuer à une vie professionnelle et personnelle en conscience. Dans le cas présent pour Alchimie de l'éveil, cette chaîne de podcast, c'est pour une vie perso en conscience. Sixième quick win, sachez que la gratitude est particulièrement puissante quand vous traversez des événements difficiles. Robert Emmons, encore une fois lui, après avoir débunké tous les détracteurs de la gratitude, il est parfaitement pragmatique et il dit « la vie est souffrance et aucun exercice de pensée négative ne changera cette vérité ». Par contre, il nous rappelle que la gratitude a le pouvoir de transformer le négatif grâce à un surplus de positif. Ce n'est pas de l'eau de rose pour bisounours, c'est un véritable soft skill. Par contre, il souligne qu'il y a une différence entre sentir de la gratitude et être reconnaissant, et que jusqu'à être dans la gratitude et sortir de la gratitude, il y a un travail par étapes. On ne peut pas se forcer dans ce travail-là, et qu'on ne peut pas forcer la gratitude à s'instaurer quand tout va mal. Mais l'expression de la gratitude, se faisant elle aussi par étapes, aide à voir la vie dans une perspective globale et pas circonstancielle, qui serait celle du problème que vous avez. Ça vous permet de prendre du recul et de voir au-delà du problème que vous avez. Ainsi, Robert Emmons nous dit que les crises nous rendent plus reconnaissants quand on s'invite à pratiquer cet exercice-là. Ils nous permettent de nous rendre compte que derrière les difficultés, il y a souvent des opportunités ou des belles choses qui finissent par arriver. Et ainsi, la gratitude nous aide en plus à traverser les crises. Et la science nous a prouvé que c'est un bouclier contre l'adversité et le stress et qui amène beaucoup plus de résilience. Il aide à recadrer les crises de façon positive et, in fine, à transformer un obstacle en opportunité. Donc, c'est souvent dans les moments difficiles que l'on oublie la quantité de ressources qui sont à notre disposition. Donc, même si c'est difficile, essayez de garder cette habitude de gratitude parce que dans les temps difficiles, ce sera l'un de vos principaux alliés. Et pour finir, je ne pouvais pas ne pas parler de Ho'oponopono. Cette pratique très répandue dans les sphères du bien-être qui, elle aussi, part d'un docteur, Hugh Len Hia Lea Kala, qui est un docteur en psychiatrie hawaïen. Alors, l'Ho'oponopono est une technique que je vous invite à découvrir qui dit merci, pardon, je t'aime. C'est une partie qui commence par dire de la gratitude, de demander pardon à la personne, à la situation, et ensuite d'ouvrir son cœur à cette situation. Ces trois étapes-là, si vous les vivez pleinement comme on vous a invité à vivre pleinement la gratitude, si vous les exprimez envers la personne concernée et envers vous-même dans la situation qui vous concerne avec cette personne-là, l'Ho'oponopono va prendre une puissance absolument phénoménale. Je l'ai pratiqué moi-même pendant une des périodes les plus difficiles de ma vie, tous les jours, avec les difficultés que j'avais avec autrui, avec la gratitude que j'avais envers les personnes qui étaient là pour être des piliers. Ça a été l'une des clés fondamentales de ma transformation. Mais au lieu de parler de moi, permettez-moi de vous parler du docteur Hugh Len Hia Lea Kala, docteur en psychiatrie hawaïen, qui a été embauché, il y a déjà un certain nombre d'années, il est décédé aujourd'hui cet homme-là, qui a été embauché par l'hôpital d'État de l'archipel hawaïen. C'était un hôpital, c'était un hôpital qui avait des détenus dangereux, psychotiques, instables, avec des affections graves. Bref, les conditions de travail extrêmement difficiles et il était pour eux très difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à affronter ce défi-là. Donc, le docteur Hugh Len a accordé d'affronter ce problème-là avec une seule condition, qui était qu'on lui laisse faire ce qu'il voulait, comme il voulait, qu'on ne lui pose pas de questions et qu'on lui laisse mettre en pratique sa technique. Les autorités ont dit, ben oui, de toute façon, on n'a personne, donc écoutez, faites ce que vous pouvez, quoi que ce sera de toute façon mieux que ce que nous avons. Et le bonhomme, il s'est enfermé dans son bureau. Il ne voyait personne. La seule chose qu'il faisait, il demandait que tous les matins, on lui amène un rapport de l'état d'être des résident. Et tous les matins, on lui ramenait le rapport. Il prenait les rapports, il s'enfermait dans son bureau et on ne le voyait plus de la journée. Après, il repartait en fin de journée et le lendemain matin, envoyez-moi les rapports. Ainsi de suite, un jour après l'autre. Au début, on se dit, mais il fout quoi? Mais comme il avait demandé qu'on le laisse tranquille, ben on l'a laissé tranquille. Et sauf que là, le personnel de l'hôpital a commencé à voir des améliorations assez notables. Et au fur et à mesure que les améliorations commençaient à arriver, ils étaient là depuis suffisamment longtemps pour se dire, il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas normal. On n'a jamais vécu ça. Et la seule différence qui existe, c'est ce docteur Hiulen, excusez-moi, j'écorche son nom à chaque fois, mais il faut le dire quand même, hein, Hiulen Ialeakala. Donc, chaque fois, la seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est ce bonhomme-là enfermé dans son bureau. Du coup, le personnel, à un moment donné, ils sont allés à sa porte, excusez-nous de vous déranger, docteur, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'on ne sait pas ce que vous faites, mais s'il vous plaît, continuez à le faire. Le docteur les a remerciés, il n'a rien dit, il a juste demandé les dossiers pour le lendemain. Et le lendemain, on lui a ramené les dossiers. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à un moment donné, ça commence à devenir mais tellement gros que c'est le personnel de l'hôpital psychiatrique qui est allé voir le docteur en son nom propre. Il disait, s'il vous plaît, docteur, on ne sait pas ce que vous faites, mais faites-le pour nous aussi, parce que c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer dans ce centre. Et il a continué, il a continué, il a continué. Et savez-vous quelle a été la fin de l'histoire? Eh bien, l'hôpital s'est vidé de la totalité de ses détenus. Il a même été question de le fermer. Quand tout ceci a été fini, le docteur Hiulen Ialeakala a annoncé qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'est mettre en pratique une pratique, excusez-moi la redondance, ancestrale hawaïenne appelée Ho'oponopono. Suite à ça, il a écrit un livre qui a été un carton international. Et le reste est une histoire que vous pouvez découvrir, entre autres, en lisant son livre. C'est une très belle histoire avec laquelle je voulais conclure ces quick wins et qui m'ouvre parfaitement la porte pour le dernier point qui me touche particulièrement le cœur et que je tiens particulièrement à cœur, c'est comment rendre la gratitude virale. Nipun Mehta est le fondateur de Service Space, qui est un incubateur de business basé sur le service et la gratitude. Dans un talk que j'ai vu sur Internet, il parle des différents business qu'il met en place et comment chacun de ces business n'est pas tourné sur la rétribution financière vis-à-vis d'un service, mais comment ce service-là, il est payé par quelqu'un d'autre qui a déjà profité du service. Notamment, il parle d'un Karma Kitchen, c'est un restaurant dans lequel vous venez manger. Et vous ne payez pas la note de votre repas. Ce que vous faites, vous laissez de l'argent pour que la personne suivante puisse payer son repas grâce à ce que vous avez laissé. Et il s'avère que c'est un restaurant qui est très très rentable et il raconte des histoires qui sont particulièrement émouvantes de personnes qui viennent et qui hallucinent littéralement avec ce qui se passe, notamment certaines un peu réticentes, qui ne comprennent pas. Et en fin de compte, il décrit le passage les étapes que transitent les différentes personnes et comment est construit leur business model. Il explique que quand vous faites une expression de gratitude à quelqu'un qui ne s'y attend pas, d'une façon dont il ne s'y attend pas, et venant de quelqu'un qu'il ne connaît pas ou dont il ne s'attend pas, on passe à une phase numéro 2. D'abord, il expérimente cette gratitude. Et cette gratitude amène un état de vide mental. Il y a une sorte de bug mental. C'est-à-dire, la logique ne rentre pas en ligne de compte. Suite à ce bug mental, il y a une recherche d'interconnexion. Mais il s'est passé quoi? Qui c'est qui a fait ça? Où est-il? Il a fait quoi? Et ce qu'ils font, ils continuent à faire bugger le cerveau en ne donnant pas de réponse à cette interconnexion. Car ce que l'on a envie de faire, c'est au moins se retourner vers la personne qui m'a rendu ce service-là. Il vient de payer mon repas, donc c'est qui lui? Il a fait quoi? Et donc, on ne permet pas de créer cette connexion-là. Ce qui fait que, naturellement, chez les personnes, naît une envie de donner un retour. Donc, écoutez, si quelqu'un a fait ça pour moi, bon, mais je vais le faire en retour. Et ainsi, le changement de business model de ce Karma Kitchen, c'est de passer de la transaction à la confiance. C'est-à-dire que le propriétaire du restaurant fait confiance au fait que les personnes ne viendront pas abuser de la confiance des autres, de la gratitude des autres, mais que tout simplement créeront une chaîne vertueuse où l'un derrière l'autre, ils viendront rendre service et permettre que ce restaurant continue à exister, car il ne fait pas que vendre à manger, il vend aussi une expérience humaine. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et tout ça est basé sur une philosophie. Et cette philosophie, c'est qu'elle dit, Gandhi a changé le monde en s'exprimant envers des millions de personnes. La marche du sel, etc. Ça, Mahatma Gandhi, la grande âme qui a libéré l'Inde de l'Empire britannique. Bref, c'était un homme qui s'exprimait envers des millions de personnes. Ensuite, il parle de Vinoba, qui était aussi un Indien qui, lui, a fait le tour de l'Inde et visitant une personne après l'autre. Il allait, lui, visiter à chaque fois un grand propriétaire foncier et lui disait, avec toute la terre que tu as, tu ne pourrais pas prendre un infime pourcentage de cette terre-là et la donner aux personnes qui sont sans terre autour de toi pour favoriser le bien-être de la communauté dans laquelle tu te trouves. Un à un, inlassablement, il a fait le tour de l'Inde et il a amené une véritable révolution qu'on a appelée la révolution silencieuse de l'amour. Et donc, le business model actuel de Nipun Mehta, c'est de rendre la gratitude virale au lieu de parler de 1 à des millions comme Gandhi. Au lieu d'aller faire du porte-à-porte pour parler de 1 à 1, ce qu'ils veulent, c'est que beaucoup parlent à beaucoup. Et c'est lui qui, et là, il parle de révolution silencieuse. Et comment, avec notre petit pouvoir individuel, nous avons la capacité de changer le monde pour peu que nous soyons suffisamment nombreux à le faire. Chers amis, merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cet épisode. Un épisode de plus, certes, de trésors, de découvertes scientifiques qui nous font comprendre à quel point la gratitude est extraordinaire. Nous avons découvert les effets de la gratitude sur nos vies, notamment dans notre cerveau qui nous rend plus heureux, moins déprimés, une liste de bénéfices sur la santé, et la longévité, longue comme le bras, mais pas que. Des effets très positifs aussi sur nos carrières, sur notre travail, sur les résultats que nous obtenons dans la vie. Mais il y a aussi, bien évidemment, des détracteurs de la gratitude, ceux qui disent que ce sont des niaiseries à l'eau de rose pour bisounours en mal d'amour. Et là, le plus grand scientifique spécialisé dans la gratitude, Robert Emmons, a pris du temps pour débunker chacun des grands mythes qui veulent détruire la gratitude. Car c'est bel et bien un potentiel absolument extraordinaire. Et pour vous le prouver, rien de mieux que vous le mettiez vous-même en application. Et là, nous vous avons partagé 7 quick wins, ni plus ni moins, avec un petit plus qui est le secret pour changer le monde en faisant notre part du colibri et rendre la gratitude virale. Je suis Keragir et ceci est votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Si vous voulez nous exprimer votre gratitude, abonnez-vous à cette chaîne de podcast. Laissez-nous un commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify et n'hésitez pas à partager cette chaîne auprès de vos amis et toutes les pépites que vous découvrez. Notre objectif, c'est aller au cœur de l'humain et de son potentiel pour une vie personnelle en conscience.